froid et seulement froid. Il avait partagé avec Lanlong l'honneur d'être appelé en consultation au chevet de Gambetta, et comme son confrère avait porté un diagnostic exact, malheureusement récusé par Charcot et ses amis, d'où la mort de l'illustre patient. De cette erreur dont Lanlong avait conçu de l'amertume, à cause précisément de Gambetta, Alcossé n'avait retiré que l'occasion de tourner en dérision des maîtres reconnus, Gambetta lui était indifférent. Toutes ses caractéristiques l'avaient fait hisser sur une sorte de piédestal. Là-haut, il se sentait très droit, exposé à l'admiration et à la critique. Alcossé était un oiseau de muséum égaré sur les côtés de l'assistance publique. Il n'appartenait vraiment à aucune catégorie. Il demeurait ailleurs, à part, avec une fierté qu'on disait espagnole. Négligeant de fixer un but précis à ses activités, il s'intéressait également aux modalités d'ablation du kyste de l'ovaire et à la technique de désarticulation de l'épaule. Les maladies vénériennes le passionnaient, et spécialement la syphilie, à laquelle il avait consacré plusieurs travaux. Redouté plus que respecté, d'une intelligence insaisissable, il allait son chemin sans rencontrer personne. Les débuts de l'âge eurent sur ce tempérament emporté des conséquences prévisibles. Refusant de se laisser instruire par ses subordonnés, il s'enferma dans le passé. Sa technique restait excellente, mais, prudent et très attaché à sa réputation, il saisit plus rarement les occasions de l'utiliser. Son énergie rentrée s'épuisant en sarcasme, il devint un fléau. Le personnel en vint à désigner sous le nom de bacille d'Alcossé, la fureur rentrée qui fait casser les assiettes et les carrières. Il était imprévisible, il devint chaotique, tumultueux, il était confus, il devint inquiétant. Ce fut au point que ses assistants malmenés envisagèrent de canaliser ses ardeurs vers un service entièrement imaginaire, un service de faux malades, où il aurait passé une fausse visite et donné de fausses indications thérapeutiques, à l'instar de ce chef d'État du sud de l'Europe qui, sénile, présidait chaque semaine un faux conseil des ministres organisé pour lui. Mais nul ne pouvait prendre Alcossé pour l'un quelconque de ces vieux patrons qui ne se décident pas à s'en aller et que l'intérêt général et la simple charité conduisent à enfermer dans leur bureau dès le matin. L'idée fut donc abandonnée. Augustin Pierre supporta de plus en plus la charge effective du service et ne s'en plaigne pas. Il y trouva l'occasion d'enseigner l'asepsie que brocardait son chef. « Allons, Pierre, ce sont des histoires d'enfants de Marie, nous avons toujours baigné dans la merde et le sang, et vous n'y pouvez rien », et écarté par lui-même de son service, Alcossé se répandit dans les salons. Souvenir de sa jeunesse dorée, il y avait toujours été présent, mais dès que Pierre eut pris la direction des affaires, il s'y laissa aller, s'y abîma. Son origine lointaine lui valait d'être largement reçu, tout comme un cardinal. Cet homme de belle carrure, au teint mat, à la parole hésitante, était fort considéré. Ses hôtes le craignaient aussi, comme s'il eût été possible que, mécontent du vin ou de la conversation, il proféra les diagnostics les plus inquiétants en public pour se venger, condamnant tel ministre à la mort à brève échéance, tel écrivain à la mode à l'asile. Naturellement, il n'en faisait rien. Ses plaisirs étaient plus simples. Pérorant sans mesure, il pouvait passer des heures à instruire une jolie femme des beautés de l'appareil de Blondeau pendant qu'à deux pas, à la salpêtrière, ses internes improvisaient. L'argent et les femmes ne l'avaient pas épargné. Il dépensait pour son hôtel du parc Monceau, pour son château en vallée de Chevreuse, pour les quatuors de Mozart qu'il faisait jouer, tard dans la nuit, lorsqu'il était seul, et pour les femmes. Les femmes, toutes les femmes, le rendaient fou depuis longtemps, il les aimait, pauvres ou riches, en linon ou en soie, en drap ou en taffetas, blondes ou brunes, pourvu qu'elles fussent suffisamment bêtes et cambrées, tant il est vrai que rien comme la croupe des femmes n'a d'effet sur les vrais voluptueux. La notoriété fit le reste. Il avait su convaincre quelques amis de ses talents, et le bouche à oreille féminin ne le desservit pas, bien au contraire, il n'eut jamais de mal à satisfaire ses désirs. Lorsque ceux-ci furent, avec l'âge, devenus plus précis, il relâcha son attention et devint moins exigeant. comme un homme qui sait que les jours sont comptés et qu'il faudra bientôt dételer. Il passa plus souvent derrière les bonnes et prit le chemin des maisons. Il y emmenait d'ailleurs des dames du meilleur monde qui frémissaient d'être traitées en gourgandines. Madame Alcossé, qui était une femme de devoir, et d'ailleurs adonnée au seul plaisir de la table, ne se plaignit pas trop d'être délivrée de la corvée, car pendant longtemps le professeur avait mené le combat sur tous les fronts. Parfois la sous-maîtresse avertie de ses goûts lui procurait une espagnole au parfum de cannelle et de sueur, et Joaquin Alcossé retrouvait dans l'étreinte un peu de sa jeunesse. « C'est le bordel, ce service, mon vieux. Il va falloir remettre de l'ordre. Vous savez bien que je ne veux pas m'en occuper. » Le partage des rôles leur convenait à l'un et à l'autre. Ils le savaient tous les deux. Alcossé, le menton relevé par le col dur, l'œil méchant, semblait partagé entre l'envie d'une algarade et le désintérêt le plus profond. Mais aussi, il aimait Augustin. Il croyait connaître son secret. L'hésitation était si visible que Pierre pensa, il se dégrade. Et il demanda calmement, « De quoi s'agit-il, monsieur ?» Alcossé prit le parti de l'indifférence. Il jeta, négligemment, comme s'il manipulait un objet poussiéreux avec ses mains gantées de frais, Fournier a encore opéré sous cette nuit. Une version, perforation de l'utérus, puis il a confondu les intestins avec le cordon ombilical et ligaturé les intestins. Faites-moi disparaître ce Jean Foutre, ou nous allons faire rire tout Paris.